Je vous parlais de sociétés rurales qu'on peut peut-être qualifier de périphériques. Ces sociétés littorales, mais qui ne sont peut-être pas non plus si marginales que cela. Je vous rappelle quand même 5000 km de côte. Combien de Français au XVIIIe siècle habitent sur le littoral? On n'a pas fait vraiment d'évaluation de ça, mais peut-être 3 millions, 4 millions. Donc ça, rien d'insignifiant, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, longtemps, c'est vrai que ces gens-là ont été étudiés dans une perspective maritime. Qui dit littoral, qui dit bord de mer, dit marin. C'est pas faux. Mais les gens de mer, on sait combien ils sont, parce qu'ils sont recensés, eux. Ils sont 70 à 80 000, grosso modo. Allez, vous multipliez par 4 ou 5 avec les familles, on va arriver à 400, 500 000 personnes, à tout casser, hein, qui relèvent, disons, de la navigation directement ou indirectement par les familles. Ce qui veut dire que tous les autres, il y a des citadins, c'est vrai, des artisans, mais très majoritairement, ce sont des ruraux, ce sont des paysans. Mais alors des paysans un petit peu particuliers, enfin un peu particuliers quand même, à la fois ordinaires, c'est ce que je vais essayer de vous montrer, et avec leurs spécificités, quant à leurs activités liées à la mer, puis aussi quant à leurs relations avec l'État. Je crois que c'est la thématique là, de votre séminaire cette année. Et ce que je voudrais essayer de vous montrer, c'est en quoi ces gens-là, ces paysans, ils ont un lien un petit peu particulier, quand même un petit peu différent des liens que peuvent avoir la majorité des paysans français, disons, de l'intérieur. Alors, deux mots d'abord pour essayer de définir à la fois ce littoral et ses paysans. On peut les définir à travers un territoire d'abord, mais ce n'est pas simple. À travers un territoire. Qu'est-ce que ça signifie? Littoral, société littorale, des gens qui sont en contact avec la mer. On ne peut pas être plus vague. En contact avec la mer, alors direct, physique, visuel, mais ce n'est pas inintéressant à mon avis, à travers la menace de la mer, mais sur quelle profondeur? Ça change tout. Alors, il y a différentes définitions que l'on peut donner. Alors, la définition, effectivement, de la grande ordonnance de la marine de 1681, c'est jusqu'où remonte le flot de Mars, la plus grande marée. Ça peut aller très loin à l'intérieur des terres, voire la vallée de la Seine, de la Garonne, etc. On peut aller très très loin avec la marée. Autre définition, les deux lieues, à peu près 8 km de profondeur sur lesquelles. Pour lesquels les hommes sont astreints à faire, sont astreints à la milice garde-côte, service militaire des gens du littoral, de lieu. Donc pour, quelque sorte, l'administration, pour l'État, c'est la profondeur qui correspondrait d'une certaine façon avec ces sociétés littorales. Puis moi, je donnerais aussi peut-être tout simplement une définition qui est très, très souple. À mon avis, il n'y a pas une ligne rigide dans ce domaine, celle des paroisses riveraines. Alors pourquoi les paroisses riveraines, en sachant s'adapter? Ce sont les paroisses qui ont un accès direct et privilégié, le terme de privilégié me paraît important, aux ressources de la mer. Les algues, on verra ça avec les pêches à pied, et puis ressources directes à l'estran. L'estran qui est leur estran. Hein, comme les communautés de montagne ou de marais, etc., ont leur marais, ont leur montagne, eh ben les paroisses de bord de mer ont leur estran, leur zone en quelque sorte qui est à eux, même si ça peut se discuter. Première carte, une carte du début du XVIIIe siècle, au sud de La Rochelle. Voilà, vous voyez assez nettement, vous avez une zone avec 4-5 km, Étré, Angoulins, ici Châtelaillon, qui sont des paroisses véritablement littorales. Mais est-ce que pour autant, ceux qui sont juste derrière, les gens de Salles, les gens de Lajarne, de Saint-Rogatien, Périgny, est-ce qu'ils n'ont pas pour autant un contact avec la mer? À mon avis, si. Ils ont un contact avec la mer. 4-5 km, ce n'est pas un obstacle. Simplement, l'obstacle, c'est qu'eux n'ont pas un accès privilégié à la mer, comme les gens d'Étré ou les gens d'Angoulins, qui, eux, ont leur littoral. Alors, les autres viennent quand même, mais dans des conditions qui sont parfois conflictuel. Vous voyez, ça nous ferait une bande de peut-être 4-5 km de profondeur, disons, mais un peu à géométrie variable, en fonction aussi de ce qu'on entend par estran. Premier type de définition. Deuxième type de définition, ces gens-là, ces populations littorales, se définissent par des activités teintées, comme diraient les géographes, un peu de maritimité, en quelque sorte. Teintées de maritimité, donc, comme j'ai déjà dit, il y a peu de marins, 70 à 80 000. Sur mon littoral, la Charentaine, à peu près 3 000, c'est pas grand-chose. Mais à des degrés divers, ces populations utilisent l'estran, travaillent en partie les pieds dans l'eau, les pieds dans l'eau salée, travaillent dans la vase, travaillent sur le sable, travaillent sur les rochers, qui leur fournissent une activité non pas principale, pour certains si, mais une activité, disons, secondaire, ou je préférerais complémentaire. Le complémentaire pouvant devenir, à certains moments, principal. C'est toujours une question de dosage, de degré, dans la complémentarité de l'activité liée à la mer. Et le mot-clé, j'y reviendrai souvent, pour ces populations du littoral, ce qui caractérise le mieux les activités de ces populations littorales, le mot-clé, c'est pluriactivité. Je n'invente rien, hein, là. Mais là, on est en plein dans le monde de la pluriactivité rurale avec ces populations. Alors, l'espace dont je vais évoquer, c'est donc le littoral charentais entre le Bas-Poitou, autrement dit la Vendée actuelle, et puis l'estuaire de la Gironde. Alors, en deux mots, présenter ce littoral, vous ne connaissez pas forcément, peut-être pour les vacances, certains. Alors, ce littoral, à travers cette carte-là du XVIIIe siècle, quelles sont ses caractéristiques? C'est un, la diversité des rivages. Vous avez du rocher, vous avez du sable, et peut-être la principale caractéristique de cette zone, vous avez beaucoup de vases. Beaucoup de vases, beaucoup de marais. Hein, vous êtes dans un pays de marais, on y reviendra, deux différents types, d'ailleurs, qu'on retrouve avec le marais salant, marais desséché, etc. Vous avez tous les types de marais qui sont représentés sur ce littoral. Deuxième caractéristique de ce littoral, c'est cette petite mer quasi intérieure, on voit ici, que forment ce qu'on appelle les pertuis. Les pertuis, c'est une zone à l'abri des deux grandes îles, l'île de Ré et l'île de Léron, relativement abritées, peu profondes, et qui sera justement propice à des activités pour des gens qui ne sont pas des marins. Donc, importance des îles, importance aussi des estuaires. Vous avez un littoral qui est rythmé par une série d'estuaires. Sèvres-Niortais, ce n'est pas très important. La Charente, ça l'est davantage. La Seudre, et puis surtout la Gironde, quand même le premier estuaire d'Europe. Donc, qui rythme en quelque sorte ce littoral. Vous avez deux pôles ensuite, maritime et portuaire. La Rochelle, d'un côté, le plus ancien, commercial. Et puis un deuxième pôle qui est fondé, qui est créé à la fin du XVIIe siècle, c'est Rochefort. Rochefort, la création de Colbert et de Louis XIV, à partir de 1666, qui constitue un deuxième pôle majeur en termes d'activité. Ça joue d'ailleurs sur ces ruraux et sur ces paysans de ce littoral. Ajoutez à ça un littoral qui est très densément peuplé, entre 100 et 150 000 habitants, à mon avis. Et là-dessus, moi, je dirais qu'il y a une petite centaine de milliers de paysans. Paysans ruraux, toujours difficile à définir. De littoraux, en quelque sorte, de ruraux littoraux. Voilà un petit peu la présentation de cet espace. Quelques références bibliographiques, si ça vous intéresse, de choses pas spécialement sur ce littoral. Alors évidemment, la référence, à mon avis, qui est dans l'esprit un peu de ce que je vais faire ici, c'est « Les Français, la terre et la mer », hein, l'ouvrage collectif fait collectivement sous la direction d'André l'Espagnol, François Speron et Alain Cabantous, évidemment, hein, chez Fayard. Ça, c'est l'ouvrage de gros pavé de base, mais qui résume le mieux, justement, ce lien entre la terre et la mer. Je citerai deux colloques qui illustrent bien, là aussi, Je m'en suis servi là pour construire un peu ce travail. Le colloque Pouvoir et littoraux, c'est un colloque qui s'était tenu à Lorient, paru au Pur en 2000 sous la direction de Gérard Le Bouédec. Et le colloque aussi sur Entre terre et mer, société littorale et pluriactivité. Même chose, paru au Pur en 2004. Et puis, parmi toute la grosse production qui existe sur cette frange littorale, je retiendrai comme un ouvrage tout récent, issu d'une thèse, c'est la thèse publiée d'Emmanuel Le Charpentier, sur le peuple du rivage, le littoral nord de la Bretagne au XVIIIe siècle. C'est dans la ligne, j'en parlerai pas vraiment, mais on retrouverait, à mon avis, un petit peu tout ce que je vais essayer de développer ici. Donc je voudrais essayer de voir, d'aborder ce problème qui est vaste, en trois points, voir d'abord, vous présenter quand même ces sociétés littorales, entre terre et mer, leurs spécificités. Dans une seconde partie, essayer de vous montrer pourquoi et en quoi ces sociétés sont soumises à une pression de l'État et à un maillage administratif extrêmement fort, plus fort que, j'aime pas le terme, mais plus fort que le paysan moyen, de l'intérieur, en quelque sorte. Pourquoi est-ce que ces gens-là sont-ils soumis à un tel filet administratif? Et puis, dans une troisième partie, qui sera par obligation rapide, essayer de voir justement, la mise au pas de ces sociétés littorales et les résistances qu'elles offrent, qu'elles opposent à cette tentative de mise au pas. Donc, la problématique, c'est en quoi ces sociétés littorales sont confrontées à la montée en puissance de l'État, grosso modo à partir de Louis XIV, pour aller vite. Parce que là, il y a un tournant incontestable, il y a un virage qui est pris dans tous les domaines, mais notamment sur le littoral. Alors, ces sociétés littorales, donc entre terre et mer, comment est-ce que ces paysans du littoral exploitent leur terroir qui a comme caractéristique d'être bordé par la mer, avec donc un certain nombre de spécificités. Alors, tout d'abord, ces sociétés littorales, ce sont des paysans que je qualifierais d'ordinaires, avec deux mots d'une banalité effrayante, laboureur et vigneron. Plus vigneron que journalier, on pourrait presque ajouter journalier, mais laboureur et vigneron. Ça résume bien, à mon avis, ce que sont ces gens-là, donc on va le retrouver partout, ça. Mais avec quand même, c'est ce que je vais essayer de vous montrer, un certain nombre de spécificités. D'abord, un monde de laboureurs. Qu'est-ce qu'on produit, comme ailleurs, du blé, banal, et il y a de l'élevage, banal également. Avec une tendance à la polyculture. Avec, en plus, sur ce littoral charentais, là c'est l'embouchure de la Charente, Rochefort est ici, et l'estuaire de la Charente. Vous pouvez remarquer un peu partout du vert, sur cette carte du début du XVIIIe siècle de Claude Mas, un ingénieur du roi, il y a énormément de vert. Autrement dit, énormément de zones très basses, vertes, en herbage, mais surtout en marais. Et vous voyez, des marais, vous avez partout un ensemble de lignes régulières qui traduisent aussi des terres conquises. Vous êtes dans cette zone, dans une région de terres conquises et qui continue d'ailleurs à être conquise au XVIIIe siècle. Une bonne partie de ces territoires qui sont au nord de Rochefort, jusque sur l'océan, sont des territoires qui sont conquis, qui sont asséchés, qui sont drainés au XVIIIe siècle. Plusieurs dizaines de kilomètres de digues, de canaux, de fossés, etc., qui sont construits notamment par l'armée. Et qui donne, si vous voulez, une vision un petit peu particulière aussi de cette zone. Alors là, dans tous ces marais, la structure d'exploitation, c'est ce qu'on appelle la cabane. La cabane, ça n'a rien à voir avec la cabane du fond du jardin, non. La cabane, dans les pays du Bas-Poitou, d'Aunis et de Saintonge, sont de grosses exploitations, généralement isolées, dans les marais, 40-50 hectares assez fréquemment, hein, tournées vers l'élevage bovin, chevaux aussi, et puis de plus en plus, au fur et à mesure que les terres sont asséchées, tournées vers la production céréalière. Donc, des laboureurs. Alors, des laboureurs, d'une part, mais aussi des vignerons. Ce qui me paraît peut-être le plus intéressant ici, c'est qu'on se trouve devant un pays, un littoral, littéralement envahi par le vignoble. Là encore, je n'invente rien, hein, c'est connu depuis longtemps. Vous êtes au cœur du grand vignoble atlantique, qui se prolonge ensuite par le Bordelais. Mais il y a un vignoble qui est moins réputé, entre les vignobles de la Loire et les vignobles du Bordelais, c'est les vignobles, entre guillemets, charentais, de l'Aunis et de la Saintonge. Or, ces vignobles connaissent une expansion là, extrêmement rapide et, on pourrait dire, foudroyante, très spectaculaire, à partir du XVIe et du XVIIe siècle, pour une apogée au XVIIIe siècle. Le vignoble vient au bord de la mer. C'est un vignoble de qualité médiocre, mais ça n'a pas d'importance, parce que ce vignoble, il est pour l'essentiel destiné aux populations du nord de la France, mais surtout aux populations du nord de l'Europe, et il est brûlé, transformé, le vin est transformé en eau de vie, notamment par les Hollandais et par les Anglais. Donc un vin de qualité médiocre, mais qui a littéralement envahi les terroirs. Par exemple, on arrive même à des phénomènes de quasi-monoculture. On va aller voir l'île de Ré. Voilà un petit morceau de l'île de Ré, où là on a justement cette dualité entre terre et mer. La terre, vous voyez, au nord, en haut de la carte, on est couvert de vignobles. Ça, c'est la monoculture de la vigne. Et puis le sud, les marais salants. Hein, vous avez les deux volets là de cette alternance entre terre et mer à travers l'île de Ré. 4000 hectares sur l'île de Ré, 2000 hectares sur Oléron, donc une quasi-monoculture de la vigne qui est assez mal connue hein, dans cette zone. Voilà donc un monde de paysans et de vignerons, mais largement tourné vers le marché, évidemment, quant aux vignerons. Alors ces laboureurs, ces vignerons, c'est le deuxième point de ma première partie, bah, ils ont, je dirais, l'estran au bout du champ. Hein, j'aime bien cette formule. L'estran au bout du champ, ce sont des paysans un peu ordinaires, certes, mais qui utilisent aussi largement les ressources de la mer. L'estran, qui est un espace là, très convoité, qui a été, bah, je dirais, comme les... qui dépendait des seigneurs, tout simplement. Nulle terre sans seigneur. Donc, comme pour tout le monde rural de l'intérieur, mais des terres seigneuriales qui sont reprises en main, alors très vigoureusement. Là, il y a une date clé, c'est 1681, la grande ordonnance de la marine qui fait rentrer en quelque sorte l'estran, cet espace-là entre la plus basse mer et la plus haute mer, dans le domaine royal. Désormais, il y a monopole du roi sur l'estran entre la plus basse mer et la plus haute mer. Et c'est valable, évidemment, ça, sur tous les littoraux français. Donc, la date clé. Et l'estran ne change pas de nature pour autant, mais quand même. L'estran, avant, et même après, d'ailleurs, il faut bien voir que c'est un espace qui... toujours pour aller de la mer à la terre, moi je dirais qu'il s'apparente assez largement aux biens communaux. Et les communautés rurales considèrent l'estran comme un espace finalement qui leur appartient, entre guillemets, mais sur lequel ils ont des droits d'usage ancestraux. C'est la même chose avec les régions de marais, avec les régions de forêt, avec les régions de montagne. On est, à mon avis, je n'entre pas dans le détail, mais dans le même schéma, avec cet estran. Hein. C'est un espace qu'ils considèrent comme le leur, sur lequel, depuis des générations, ils disposent d'un certain nombre de droits d'usage. Alors, ces droits d'usage, on peut essayer de les des passés en revue. Droit d'usage, ce sont d'abord ce qu'on appelle les pêches à pied. Voilà les pêches à pied que j'illustre tout simplement à travers des gravures de Duhamel du Monceau. Elles sont traitées des pêches. Alors, ces pêches à pied, elles sont extrêmement variées. Vous en avez, c'est sûr, sur la côte normande, à peu près de la même façon. Simplement, les noms des engins changent, les noms des poissons changent, les pratiques changent, mais c'est grosso modo la même chose. Alors, ce sont toujours des pêches qui sont réalisées à partir du rivage. Ils ont les pieds dans l'eau. Vous voyez, ils le montrent d'ailleurs, là, mais ça s'arrête au mollet. Hein. Alors, ce ne sont pas des marins pour autant, ces gens-là. Jamais ils vont sur un bateau. Ce sont des terriens, ce sont des paysans, mais qui se livrent à des pêches, les pieds dans l'eau, et le terme est exact, des pêches à pied, hein, toujours. Pêche à pied avec les fameux avenots, ils existent encore, je ne sais pas s'ils existent chez vous sur la côte normande, ils existent en Charente, ils existent un petit peu partout, sous des noms différents, bah, qui servent à pêcher le petit poisson, la crevette, alors qu'ils vont être très attaqués par les autorités, parce qu'ils ramassent tout. Comme ce sont des mailles, évidemment, très très fines, c'est extrêmement destructeur. On verra ce qu'on en fait. Deuxième type de pêche à pied, la pêche à la senne. S-E-2-N-E, les termes, là encore, et les orthographes variants. Là encore, vous êtes dans le même schéma, c'est-à-dire une pêche qui est réalisée à partir du littoral, à partir du rivage. Là encore, ils ont les pieds, un petit peu les jambes dans l'eau, mais ça s'arrête là, mais ils n'utilisent absolument pas de bateau. Parfois, ils utilisent une petite barcasse, une petite barque qui va pour tirer le filet vers le large, mais trois fois rien. Mais vous voyez, ils font ça à partir, toujours, du rivage, des pêches, d'ailleurs, qui sont souvent collectives, 2, 3, 4, j'ai trouvé des anecdotes là, assez amusantes là-dessus, mais qui traduisent bien là, aussi la nature de cette pêche. Il y a un autre type. Alors, j'arrête sur ces pêches à pied, vous voyez, sur l'estran. C'est variable, sable, vase, parfois rocher. Également, des pêcheries fixes. Pêcheries fixes, et là, photo aérienne d'une écluse à poissons qui existe encore aujourd'hui. Hein, sur la pointe, l'extrémité, là, c'est le phare, la tour des baleines, sur l'île de Ré. Alors, ces écluses à poissons, quelque chose de passionnant, il y en a une centaine sur l'île de Ré et sur l'île d'Oléron, au XVIIIe siècle, qui vont d'ailleurs en nombre croissant jusqu'au XIXe siècle. Alors, ce sont des entreprises absolument énormes. Vous voyez, c'est un mur en forme de fer à cheval, qui est construit, là c'est une photo qui a dû être prise à marée basse. Donc vous voyez, un mur en forme de fer à cheval qui est construit sur l'estran rocheux en utilisant les pierres de la banche rocheuse. C'est une accumulation de pierres extrêmement rigoureuse du point de vue du niveau, parce qu'il ne faut pas que l'eau s'en aille, évidemment. Vous êtes dans une zone en plus exposée à toutes les tempêtes, donc c'est extrêmement délicat à entretenir. Le principe étant que l'écluse, évidemment, elle est submergée à marée haute, et lorsque la mer descend, il y a une série là, d'ouvertures avec des grilles. L'écluse se vide, mais elle conserve, vous voyez, de vastes mares dans lesquelles les poissons sont piégés. Hein, c'est le principe. Alors, le deuxième principe du fonctionnement de l'écluse, c'est que c'est toujours un fonctionnement collectif. Toujours 10 à 20 personnes copropriétaires. Le terme de propriétaire, d'ailleurs, n'est pas exact. Ce sont des concessions qui sont faites par le seigneur, parce que c'est sur le domaine maritime, et qui seront faites ensuite par l'État, par l'administration, à, en quelque sorte, des sociétés, mais des sociétés là multifamiliales, de 10 ou de 20 personnes, qui se partagent le travail de construction, d'entretien, et ensuite de pêche. On se répartit le temps de pêche par marée, marée de jour, marée de nuit, etc. Donc, il y a un système de rotation sur ces pêches à pied. À ce qu'il faut ajouter, c'est que, là encore, ce n'est pas une affaire de marins, ça. Ce sont des pêcheurs à pied. Ce sont, sur l'île de Ré, des sauniers, des journaliers, des laboureurs ou des vignerons qui sont les usufruitiers ou propriétaires, comme on veut, et exploitants de ces écluses. Et ces écluses, elles ont un rôle extrêmement important. On considère que ça correspond à peu près un tiers de la nourriture des gens de l'île, sans compter les exportations de poissons. Donc ce n'est pas quelque chose d'anecdotique. Vous voyez, on a une édition ça, de pêche à pied, mais qui cumulée aboutissent à un équilibre alimentaire, surtout sur une île comme l'île de Ré, où on a vu tout à l'heure, sur l'île de Ré, vous avez d'un côté le sel, de l'autre la vigne, et puis il reste pratiquement plus de place pour les productions vivrières, pour le blé. Et donc des déséquilibres qui sont en partie compensés sur le plan des équilibres alimentaires, notamment par la production des écluses. Alors, à côté de ça, des activités de ramassage également, pour compléter le système. Activités de ramassage sur toujours l'estran au bout du champ, les coquillages, je ne développe pas, et surtout les huîtres. Alors là, on a une filière huître, pour reprendre la formule de Thierry Sauzeau. Je pense qu'on doit retrouver un peu sur vos côtes aussi, sur les côtes normandes. Filière huître, alors de deux façons, là aussi. Et filière huître qui est développée, là encore, pas par des marins, mais par des paysans, avec le dragage des huîtres sur les rochers à marée basse, aux grandes marées, et puis la construction, à partir de la fin du XVIIe et surtout XVIIIe siècle, de réservoirs, ou de ce qu'on appelle les clairs, on appelle ça encore des clairs aujourd'hui, autrement dit des bassins qui sont construits généralement sur les fonds vaseux, avec des petites digues, et dans lesquelles on va faire prospérer, engraisser les huîtres. Et là aussi, c'est une ressource très très étonnante qui se développe au XVIIIe siècle. Ajoutez à ça, évidemment, la récolte des algues, le goémon ou le sarthe, là encore les noms sont très divers, qui est l'engrais un peu miracle, l'engrais miraculeux sur les côtes. On dit que ça irait jusqu'à faire doubler ou tripler les rendements. Difficile à calculer, mais enfin bon, effectivement, ça apparaît comme un engrais miraculeux dans un monde rural où l'engrais est rare. Or là, il est effectivement extrêmement, extrêmement abondant. Avec toute une réglementation, j'y reviendrai, entre d'un côté le goémon épave, autrement dit qui vient s'échouer sur la plage, et pour lequel l'accès est libre et le ramassage est libre. Ramassage est libre pour la paroisse riveraine, mais aussi pour les gens de l'intérieur, ce qui va donner lieu à des conflits. Puis un deuxième type après d'algues, de goémon, c'est le goémon qu'on va aller arracher sur les rochers, qui est plus rare, qui est plus précieux, et qui, lui, est réservé aux gens des paroisses riveraines. Mais vous voyez comment s'additionnent tous ces ramassages. On pourrait y ajouter aussi le ramassage des épaves, qui n'est pas si insignifiant que ça, lié, que j'ai pu étudier par ailleurs, lié au naufrage. Hein. On a une économie du naufrage, étudiée aussi par Alain Cabantous, extrêmement importante, alors qui va du ramassage individuel et familial du gamin ou des femmes qui vont, lorsqu'on sait qu'il y a eu un naufrage dans le coin, qui vont traîner le matin, qui vont à la côte, c'est le terme qu'il utilisait, ramasser ce qu'on trouve, le bois, des petites feuilles ou des cordages, etc. Et puis on peut aller jusqu'à une économie, je dirais, intégrée du naufrage, avec pillage systématique, démolition intégrale également des épaves, avec ensuite des circuits de recyclage en aval qui intéressent finalement tout le monde. Alors vous voyez, j'essaie de dresser un peu la liste de ces l'estran au bout du champ, et je ne peux pas résister, c'est un coin que je connais bien. Alors vous me direz, c'est en total décalage, c'est une carte postale de 1900. Mais je la trouve passionnante, cette carte postale de 1900, c'est près de Royan, la paroisse de Saint-Palais, parce que c'est un monde qui est en train de basculer. En train de basculer, c'est l'arrivée des villas. Hein, c'est l'irruption du balnéaire en 1900. Bon, ça, on le laisse tomber. Mais ce qui me paraît intéressant, sont les trois autres éléments. La plage, là, une vaste plage, une plage rocheuse, c'est le type même de l'estran utilisé par les paysans. Ce qui est intéressant, l'estran au bout du champ. Alors voilà, je pense que ça illustre parfaitement avec le réseau de chemin qui descend tout simplement vers la plage. Et là, vous avez la vigne et le blé. Hein, c'est ces champs lanierés, généralement, c'est de la vigne dans ce coin. Vigne, blé, l'estran qui va fournir les algues, les activités de ramassage, pour des villages qui, d'ailleurs, vous pouvez le remarquer, n'apparaissent pas ici. Tout simplement parce que ces villages, ils sont en arrière de la côte, situés à 1, 2 km. La côte, ce n'est pas un endroit sûr, à tout point de vue. Hein. Donc là, on a vraiment cette association entre le terroir et la plage. Hein. Donc, pour ça, oui, des paysans un petit peu particuliers, ils sont vignerons, ils font du blé, et puis ils exploitent toutes les ressources de la mer. Donc vous voyez un petit peu comment tout ça s'organise. Et puis, il y a un troisième point. Je suis un peu long peut-être, mais j'essaye de bien fixer, vous voyez, les cadres pour comprendre ensuite de manière, j'irai beaucoup plus vite, ce qui va se passer. Et puis, il y a quand même un troisième groupe qu'il faut évoquer dans cette première partie. C'est les paysans de la mer, là, autrement dit les sauniers. Alors, deux mots sur ces paysans de la mer que sont les sauniers, parce que vous êtes dans ces pertuis charentais, dans la première zone de production de sel, à peu près européenne. Quand même. Donc, c'est pas signifiant. Sur 25 paroisses, à peu près 30 000 tonnes par an, chiffre moyen, dans les zones qui sont dans les zones vaseuses, qui ont été endiguées. Il y a eu un long processus depuis le Moyen-Âge de construction de ces marais salants, avec à l'arrivée un paysage là tout à fait spécifique, toute cette bordure, ce liseré de marais salants sur une bonne partie de ce littoral, notamment les îles. Donc, paysage évidemment qui est totalement artificiel, qui est un paysage totalement construit, où le saunier n'est jamais le propriétaire, ça viendra mais plus tard, seulement au 19e siècle. Alors ce paysage de marais salants, cette économie du marais salant, elle aussi, elle renvoie à ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire à la pluriactivité. Les sauniers que vous voyez représentés ici, ils ont un rythme de travail tout à fait particulier, c'est très saisonnier, essentiellement évidemment au moment de la saunaison, au moment l'été, avec des travaux d'entretien en dehors, ces sauniers, ils ont du temps de libre. D'où, justement, la pluriactivité de ces sauniers. Et là, on a un programme de recherche sur notamment les marais de brouage en ce moment. Et c'est très intéressant de constater, à travers notamment les inventaires après décès, que tous ces sauniers, d'une part, dans leurs réserves, dans leurs chais, dans leurs granges, on trouve systématiquement des barriques de vin. Autrement dit, ils sont en même temps vignerons. Or, pas évidemment sur les marais salants, mais un petit peu en retrait. Et si on regarde, on comprend mieux. Regardez, l'île de Ré. Marais salant touche la vigne. Donc, vos sauniers, ils ont des petits clos de vigne où ils louent des parcelles de vigne et ils travaillent sur les. Ils ont les deux volets quant à leur activité. Ajoutez à cela que ces sauniers, ils ont ce qu'on appelle la jouissance de leur boss ou bossis. Ça ou ça, autrement dit, c'est. Parcelles de terre allongées entre les marais, qui servent à stocker le sel, mais qui servent aussi à une production très intensive d'orge, de légumes, grâce en partie aussi aux algues. Ajoutez que les sauniers, ils auront une autre corde à leur arc, on stocke l'eau de mer dans des grands bassins, c'est pas là qu'est produit le sel est produit ici, mais des bassins notamment l'hiver, ils utilisent aussi pour la pêche, pour l'élevage du poisson. De plus en plus aussi, c'est dans cette zone-là qu'ils vont aménager des réservoirs pour les huîtres, pour devenir des huîtriers, en quelque sorte. Et puis, ils ont accès à tout ce qu'on a dit précédemment, quant aux différentes pêches à pied, etc. Vous voyez, avec les sauniers, on a l'impression que ce sont quasiment là des prolétaires attachés uniquement à la production de sel, dans un système d'airain quasiment. En réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et on voit que ces gens-là, misère apparente, enfin misère réelle aussi, mais qui arrivent à s'en tirer, justement, par cette pluriactivité liée à l'exploitation de la mer et de la terre. Hein, ils arrivent à jouer sur tous les tableaux. Alors, c'est pas un système merveilleux pour autant, hein, où tout le monde est riche, etc. Non. C'est attention, vous êtes dans un monde plein, un monde surpeuplé, hein, où justement il n'y a pas assez, on ne produit pas suffisamment pour se nourrir. La subsistance, ça ne fonctionne pas. Et on arrive simplement à s'en tirer encore une fois grâce à cette pluriactivité, grâce à cette pluralité d'activités rurales fondées sur à la fois les ressources de la terre et les ressources de la mer. Voilà. Et je crois, vous voyez, là, on est en train de travailler actuellement sur les inventaires après décès ruraux, et là, ça révèle au grand jour, justement, à travers tout ce qu'il y a dans les chais, dans les dépendances, à travers les papiers, ben, on voit bien comment ça fonctionne. On aboutirait, vous voyez, à une société aussi pluriactive, à géométrie variable, avec des modèles sociaux. Moi, j'arrive à voir le saunier, qui est en même temps huîtrier, et paysans. Les huîtres, le sel, et puis la production sur les bosses. On aurait le modèle après du vigneron qui en même temps est paysan et sur les îles de Ré ou de Léron travaille et récolte la production des écluses. Hein, le vigneron éclusier, modèle original. On aurait aussi le paysan, comme on dit, qui est aussi coureur de vase, avec toutes les pêches à pied dans la vase, où il y a, de la production de moules, etc. Vous voyez tous ces modèles à la fois sociaux et d'activités qui sont pluriels, qui sont multiples, mais qui sont la réalité, je dirais, sur le littoral de ces sociétés. Alors, deuxième partie maintenant, un maillage serré du littoral qui se met en place. Alors, un maillage serré du littoral, ben, pour quelle raison, d'abord ? Eh ben, pour quelle raison l'État s'intéresse beaucoup plus qu'avant, à partir de Louis XIV, au littoral, à son économie et aux gens qui habitent sur le littoral ? Eh ben, c'est lié, je vais passer très vite là-dessus, à une série d'enjeux dont l'État prend conscience, notamment à partir de Colbert et Louis XIV. Là, il y a là encore un tournant incontestable. Alors, le premier enjeu, je dirais, c'est un enjeu militaire. Enjeu militaire, alors, notamment sur ce littoral, partout. Hein, sur le littoral normand, ça me paraît très évident aussi, pas loin de l'Angleterre. Hein, littoral breton aussi, mais le littoral charentais, qui paraît pourtant beaucoup plus éloigné des dangers potentiels, mais l'enjeu militaire est très fort. Il y a les Anglais, ne pas oublier qu'il y a l'ennemi intérieur entre guillemets, les protestants. Hein, les protestants, jusqu'au XVIIIe siècle, on a peur, en quelque sorte, d'une espèce de cinquième colonne. Et j'ai trouvé des textes très très étonnants sur les autorités qui ont toujours peur en période de conflit, en période de guerre, que les protestants viennent appuyer une invasion, un débarquement anglais. Bon, il y a cela. Et puis, l'enjeu militaire est lié à la création de Rochefort, le grand arsenal de Rochefort, qui devient, dès Louis XIV, un des objectifs majeurs et prioritaires des flottes hollandaises ou anglaises. Ce qui signifie que ce littoral, il faut le verrouiller par une série de fortifications, une série de citadelles, Saint-Martin-de-Ré, Château de Léron, etc., tous les forts de la Charente. Et le résultat, donc, vous voyez, c'est un littoral dont l'État, l'administration, est obligé de s'occuper, de surveiller de manière extrêmement rigoureuse. Ajouté à ça, toujours dans les enjeux militaires, il s'agit aussi de surveiller ce littoral, qui est un littoral qui fournit les marins. Hein, les marins qui vont aller sur les navires de la Royale, il faut les, encadrées, c'est le système des classes, à partir des années 1670, hein, sur le littoral charentais. Le système des classes, donc, on les recense, et puis après, on gère tous ces gens-là. Mais ça signifie, là aussi, un suivi rigoureux, méthodique, de tous ces marins. Enjeu militaire. Donc, le résultat, c'est que c'est un littoral qui est militarisé, hein, qui est surmilitarisé, pas comme les frontières du Nord ou de l'Est, mais pas loin, je pense, hein. Quelques chiffres là qui vont dans ce sens-là, mais beaucoup plus militarisé évidemment que toutes les campagnes de l'intérieur. Enjeu politique, je dirais que c'est bon, à partir de Louis XIV, là, c'est la maxime de l'ordre. Louis XIV reprend en main en quelque sorte son territoire avec la grande ordonnance de la marine, et il faut là aussi domestiquer une population qui est considérée comme remuante, comme dangereuse. Ça fait partie de cette maxime de l'ordre. Le symbole, à mon avis, dans ce domaine, c'est ce qui se passe autour des naufrages. Avant, quelque peu, enfin anarchique. C'est laissé au seigneur, droit de brique, DRIS, et puis c'est laissé, ça dépend des seigneurs, s'ils sont présents ou pas, c'est laissé assez largement à l'appréciation, en quelque sorte, des communautés littorales. À partir de 1681, là aussi, les règles du jeu changent complètement. Et l'État reprend les choses en main, parce que ça fait partie, en quelque sorte, des droits régaliens de l'État. Ça. Et donc, c'est un enjeu, ça aussi. J'appellerais ça un enjeu politique, reprendre en main ces gens-là. Enjeu économique, évidemment, à travers ce qu'on a dit, notamment sur ce littoral, c'est une frontière douanière, d'une part, c'est une frontière économique, frontière douanière, avec deux productions qui sont particulièrement taxables, en quelque sorte, le vin et le sel. Donc on ne peut pas, là aussi, se désintéresser de cette frontière, de ce littoral, avec les richesses fiscales qu'il y a sur ce littoral. Et puis, j'ai même ajouté des enjeux environnementaux. Ça peut surprendre, je ne fais pas ça par opportunisme, mais enjeux environnementaux, ben oui, on a conscience aussi, c'est très étonnant ça, à partir de Colbert, de l'épuisement des ressources, hein, du risque d'épuisement des ressources en poissons, en algues, en coquillages. On a une masse de textes réglementaires là-dessus. Hein, c'est-à-dire qu'on a l'État a peur de toutes ces ressources naturelles dont on prend conscience de l'importance, eh bien, disparaissent du fait d'une, comme on dit aujourd'hui, d'une surpêche. La notion de surpêche, elle n'est pas utilisée à l'époque, mais elle est bien présente dans les différents textes que l'on a. Donc vous voyez, il y a une série d'enjeux pour l'État qui expliquent que l'État mette en place un réseau administratif particulièrement dense. Il y a une logique. Alors, ce réseau administratif dense, bon, d'une part, il s'organise, il se structure à partir, ça je ne vais pas le développer, à partir de tout un corpus législatif. Corpus législatif particulièrement impressionnant, qui est structuré autour de la grande ordonnance de la marine, qui traite de tout. Et puis à partir de cette grande ordonnance de la marine, durant tout le XVIIIe siècle, vous avez des tas de textes, on dirait, d'application en quelque sorte, des ordonnances, des règlements, etc., surtout hein, sur les pêches à pied, sur la pêche aux huîtres, sur les écluses à poissons, sur tout ce que vous voulez. Hein. Il y a une densité énorme de textes là-dessus. Alors là aussi, ce serait intéressant à comparer par rapport, au monde rural de l'intérieur. Et je pense que là aussi, le monde du littoral est, particulièrement bien servi en la matière. Alors, cette machine administrative, je vais essayer d'en dégager deux ou trois traits, originaux, simplement. Première chose, moi, qui me surprend, c'est que toutes les paroisses du littoral, j'y viens toutes, sont soumises d'abord à des inspections de grande envergure. Ça existe aussi à l'intérieur, mais à mon avis, beaucoup moins. Ou alors, c'est l'intendant qui envoie des subdélégués, etc. Mais là, on va avoir des inspections menées par des gens de haut niveau et qui vont parcourir systématiquement toutes les paroisses du littoral. J'en donnerai trois exemples. Premier exemple qui n'est pas très connu, c'est celui d'un ingénieur du roi, ingénieur militaire, Claude Masse, M-A-2-S-E, qui à la fin du règne de Louis XIV, il reste 20 ans entre, disons, la Loire et le bassin d'Arcachon. Et il va nous faire une série de cartes remarquables, j'en ai passé un certain nombre tout à l'heure, et de mémoires, paroisse par paroisse. Et il connaît sur le bout des doigts chacun de ce territoire. Donc c'est quelqu'un, c'est pas n'importe qui a séjourné dans chacune des paroisses, il a construit ses cartes par triangulation, donc il ne fait pas que passer en reprenant les cartes existantes précédemment, non. Et il a fait une véritable enquête sur chaque paroisse. Mais encore beaucoup plus important, c'est le fameux Le Maçon du Parc. Ça vous dit peut-être quelque chose, Le Maçon, L-E-M-A, 2-S-O-N, loin du Parc. Le Maçon du Parc, c'est l'inspecteur général des pêches. Inspecteur général des pêches, au début du règne de Louis XV, et qui va être chargé d'une inspection générale de toutes les côtes de France. Il va faire à cheval, quand même, les 5000 km de côte française, un peu moins, on n'a pas la Corse, dans les années 1720. Inspection dont les procès-verbaux, dont les rapports ont été publiés, qui est assez extraordinaire. Le Maçon du Parc, il fait tout en personne, c'est pas n'importe qui, hein. C'est l'homme du roi qui arrive dans ces villages de pêcheurs perdus, escorté d'un ou deux officiers de l'amirauté, escorté de deux ou trois archers, on ne sait jamais. Donc il y a un cortège qui arrive et qui va aller de paroisse en paroisse. Il est annoncé, il n'a pas toujours raison d'ailleurs de se faire annoncer, et puis il va ensuite convoquer le syndic de la paroisse et on va visiter le port s'il y en a un, mais surtout on va aller dans toutes les maisons des pêcheurs, on va aller voir les filets qu'ils possèdent, les engins de pêche, et puis on va les interroger sur leurs pratiques de pêche. Ce n'est pas seulement un objectif répressif, c'est une enquête extraordinaire, notamment sur les pêches à pied, et qui donc est réalisée sur l'ensemble des côtes françaises, dont les côtes charentaises. Là, c'est pas, il est passé en Normandie aussi, je pense, hein. Vous l'avez vu passer. Hein. Voilà. Et c'est assez extraordinaire de voir justement comment ça se déroule. Et là, vous voyez, c'est pas l'intendant là, qui envoie une vague instruction. Non, inspecteur général des pêches, pas n'importe qui va dans les maisons des pêcheurs et fait tout le littoral français de ce type. Et ensuite, il sera imité par les officiers locaux de l'amirauté qui, à intervalles plus ou moins réguliers, feront la même chose chaque année, enfin au début, après ça se passera, hein. Mais l'habitude qui est des inspections, hein, sur ce littoral. Et puis ça va durer jusqu'à la fin du 19e siècle, avec l'enquête aussi en 1783 de Chardon, comme un Chardon là, qui va faire à peu près la même chose, de manière plus rapide quand même. C'est pas, ça descend pas au niveau de... Donc vous voyez, première spécificité, ces inspections, ces enquêtes qui font que les gens du roi et de haut niveau rentrent chez ces paysans du littoral, chez ces pêcheurs à pied, qui donc sont confrontés à ça. L'armature administrative est ensuite chapeautée par un intendant. Alors vous me direz, comme partout. Mais là, c'est un intendant de la marine, qui a souvent une double casquette, la casquette terre et la casquette mer, en quelque sorte. L'intendant de la marine, par exemple, résidant à Rochefort plutôt qu'à La Rochelle, même s'il y a parfois des variations. Alors, intendant de la marine, ben, qui a des fonctions un petit peu élargies, liées à la mer, et c'est lui notamment qui organise, qui dirige et qui gère le système des classes. Alors, pour les marins, hein, ça. Mais quand même, système des classes pour les marins, c'est une administration là, hyper centralisée, avec départements, quartiers, et tout un personnel là, de commis qui, là aussi, sont présents dans les paroisses, se déplacent très souvent dans les paroisses. Tout ça sous la direction de l'intendant. Donc, vous voyez, une administration supplémentaire, des gens du roi qui sont présents dans les paroisses, les gens de l'administration des classes qui ont, eux, comme fonction, donc, de recenser les marins et surtout de gérer la carrière des marins, de les surveiller pour qu'on puisse leur, la mettre la main dessus pour les envoyer sur les vaisseaux du roi. Deux autres spécificités, là aussi, que j'ai déjà évoquées, l'armée littorale qui est très militarisée, on l'a déjà dit, parce que c'est une frontière militaire, et qui est militarisée aussi pour une deuxième raison, autre spécificité, c'est le système des milices garde-côtes. Donc tous les hommes, en dehors des marins, entre 16 et 50 ans, en théorie en tout cas, sont soumis à ce qu'on appelle la milice garde-côte, donc une espèce de service militaire obligatoire, avec revue, etc., et mobilisation en temps de guerre. Assez surprenant le phénomène, sur l'île de Ré, il y a 3000 hommes qui peuvent être ainsi mobilisés. Avec ce que ça signifie également comme encadrement, et donc comme maillage encore, hein, de cette société rurale. L'armée, il y a aussi la ferme générale qui est très présente sur le littoral. Ben, ça se comprend, on l'a vu dans les enjeux. Le vin, le sel, toutes les importations, les exportations, la contrebande, eh ben, impliquent la présence massive des commis de la ferme générale. Et ils sont nombreux, ces gens-là, avec un réseau, là aussi, de postes, de bureaux. C'était fait déjà pour la Bretagne, le phénomène. Je donne deux chiffres, là, que je peux vous donner, là, au passage. Par exemple, sur l'île de Ré, on a 45 employés des fermes sur l'île. Là aussi, des gens qui surveillent que les habitants, que les paysans voient régulièrement. Et puis alors, là on est resté à un niveau étatique, un cran en dessous, on a l'administration clé qui est l'amirauté. L'amirauté, il y en a deux qui nous concernent, nous c'est l'amirauté d'une part de La Rochelle et l'amirauté de Marennes. Alors qu'est-ce que c'est que l'amirauté? Ben, c'est une administration spécialisée, qui a une compétence administrative et une compétence judiciaire, qui a une compétence territoriale, très étonnant, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'il leur a faire, c'est ce qui se passe sur mer, sur les bateaux, et ce qui se passe sur l'estran. Dès qu'on rentre à l'intérieur des terres, c'est plus leur affaire. Par contre, ce qui se passe sur les rochers, sur la plage, ou dans le port, ça relève de l'amirauté. Et puis ensuite, l'amirauté a des compétences. Les compétences de l'amirauté, c'est l'ensemble des activités maritimes, la navigation, les pêches, et tout ce qui se passe sur le rivage, grosso modo. Autrement dit, s'il y a un assassinat sur le rivage, l'amirauté. Donc, vous voyez, c'est à la fois territorial et maritime quant aux activités. Alors, ces gens-là sont chargés de faire appliquer toute la législation royale. Combien ?
Cinq.
Cinq. Bon, on va essayer. Hein. Alors, qui sont-ils et combien sont-ils ? Allez, par amirauté, une demi-douzaine d'officiers, d'une part. Mais qui sont dans leur ville, hein, La Rochelle ou Marennes. Ils ne bougent pas trop, quand même. Et puis, en dessous, tout un personnel auxiliaire. Des huissiers, des sergents, après des gens spécialisés, des chirurgiens pour faire des autopsies, etc. Au total, par amirauté, c'est entre 20 et 30 personnes. Là aussi, maillage, vous voyez, comme assez fort. Mais il n'empêche que tous ces gens-là, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour surveiller les 100 000 habitants du littoral, des pays charentais, même si la densité est déjà forte. D'où la nécessité, ici comme ailleurs, ensuite d'avoir des relais, autrement dit des relais locaux pris dans la population, je dirais un peu volontaire désigné, quelque sorte. Alors, là, l'homme clé du système, c'est le garde-côte. Le garde-côte, plus que le garde-champêtre. Hein. Garde-côte, c'est quelqu'un qui a c'est un notable de la paroisse, qui est choisi par l'amirauté, qui reçoit une commission, qui définit ses pouvoirs, et il a comme principale fonction d'être le gardien de la côte, garde-côte. Autrement dit, chaque jour, il doit faire sa patrouille sur la plage, sur le littoral, et il doit aussitôt avertir l'amirauté de ce qui se passe, un naufrage, une infraction à la pêche, etc. Donc vous voyez, il a un pouvoir, c'est un relais local, qui est souvent d'ailleurs pris entre le marteau et l'enclume, hein. Le marteau de l'administration et l'enclume de la population. Il est entre les deux. Personnage clé, avec des gardes-côtes généraux, hein, pour l'île de Léron, pour l'île de Ré, etc., des gardes-côtes particuliers, un par paroisse, et des aides-gardes-côtes. Alors, je vous dis ça, là aussi, pour vous montrer toujours ce maillage, hein, le nombre de gens qui sont affectés et à la surveillance de ce littoral. Ajoutez à ça, comme relais locaux, les syndics aussi. Syndics, là, ça renvoie un peu aux syndics des syndics de l'intérieur. Là, on a toujours un syndic des gens de mer, d'une part, qui gère les marins. On a un syndic des pêcheurs aussi, qui est élu, et qui, là aussi, doit relayer, faire appliquer les décisions royales, et éventuellement dénoncer. C'est pas toujours pratique. Et je ne parle pas également du rôle des assemblées d'habitants, qui est important, notamment vu l'importance, qui est important au regard de tous les droits d'usage sur le littoral. Donc, vous voyez au total ce maillage extrêmement, extrêmement fort, extrêmement dense, lié à des enjeux dont l'État a pris conscience. La troisième partie que je ne traiterai pas, vous voyez, c'était répression, régulation et résistance. Les choses sont beaucoup plus nuancées qu'il n'y paraît. L'idée classique, Louis XIV, on met tout le monde au pas. Tout le monde... Alors, c'est plus compliqué que ça sur le littoral. Je ne veux pas défendre l'administration, la politique de Colbert et de Louis XIV, mais il y a des choses qui sont quand même assez étonnantes. Vous voyez, en matière de pêche à pied, leur objectif, c'est d'arriver à une espèce d'équilibre. Équilibre, on le voit à travers ce que dit l'intendant, là. Il estime qu'on ne doit pas détruire les parcs et pêcheries, les écluses à poissons, qui sont le long de la côte, attendu que ces pêcheries fournissent à une partie des subsistances des villages circonvoisins. Elles sont illégales, ces écluses, mais il faut les garder. Et de même, sur, vous voyez, le goémon, les algues, même chose, on a le droit de le ramasser, mais pas trop. Il faut que chacun puisse ramener, il faut le limiter à la capacité de charge d'un âne, une monture. Toujours cette volonté, en quelque sorte, d'équilibre et de ne pas trop détruire la ressource et en même temps d'une espèce de répartition sociale à peu près convenable. J'avais pris aussi comme deuxième exemple les naufrages qui passent sous contrôle de l'amirauté. Oh, c'était simplement un petit texte là, amusant là, d'un malheureux comique greffier et qui reste 15 jours dehors, en quelque sorte, hein, dans le froid, dans la pluie, à faire son travail. Mais ça montre, là encore, comment ça fonctionne. C'est-à-dire que les naufrages sont passés sous le contrôle de l'administration royale, mais sont en même temps largement confiés à la population. Se met en place, en matière de naufrage, un véritable service du travail obligatoire. Hein, lorsqu'un naufrage se produit, qu'est-ce qui se passe ? Pour récupérer les épaves, tout remonter sur la dune, on mobilise la population. Et la population, au début, ça ne se passe pas très bien. Finalement, comme c'est l'hiver, généralement, ils sont payés, pas très bien, mais ils sont payés. Ces journaliers, ces petits paysans, ces vignerons qui ne sont pas très occupés l'hiver, ils y vont. Hein. Et ça montre bien, là aussi, toujours, cet encadrement de la population. Et puis, je termine là-dessus, néanmoins, résistance. Résistance des communautés. Alors, résistance passive, on le voit bien à travers les deux premiers textes. On fait encore usage à Hainaut des avenots, vous voyez, c'est qu'on filait, malgré les défenses. Tous ceux qui nous fîment brûler la répression. Les avenots en avaient encore l'année suivante et en ont même fabriqué d'autres. Et on a fait brûler plus de 100 avenots à l'île de Ré, mais aujourd'hui, il s'en trouve le double et on s'en sert librement. Ça montre bien aussi, vous voyez, là. On amortit, et puis après, on recommence. Et puis après, vous avez, au-delà de ces résistances passives, des résistances plus actives, où on voit que les gens de l'amirauté, ils se méfient. Hein. Plus de 800 personnes sur un rocher, période de grande marée, où la pêche est prohibée pour y enlever les huîtres. devant le grand nombre de personnes et le danger évident qu'il y aurait pour notre vie de saisir et arrêter les dites chaloupes, nous nous sommes retirés. On voit les limites du système. Et puis, une affaire de violence liée aussi à un naufrage. J'arrête là. Alors, simplement deux mots en conclusion. Des sociétés rurales voulaient obtenir plusieurs choses, très pluriactives. Vous voyez un peu la typologie là, de mes paysans du littoral que j'ai essayé de faire. Il y a une infinité, mais je crois que c'est la réalité du terrain, avec l'utilisation à la fois des ressources de la terre et de la mer. Deuxième, et l'estran est vraiment le prolongement du champ. C'est la deuxième chose peut-être à retenir. Deuxièmement, un littoral qui est devenu stratégique pour l'État, dans tous les domaines, d'où sa surveillance, d'où le contrôle sur ses populations. Et puis, une reprise en main incontestable, mais une reprise en main, là aussi, qu'il faut nuancer, que l'État n'a pas tous les moyens de cette reprise en main. Et puis, je dirais que l'État, il a aussi, sans doute, un peu une politique, finalement, nuancée, intelligente, où il essaye tout à la fois de tenir compte des intérêts de l'État et puis aussi des intérêts des habitants et des communautés. Il y a une espèce d'équilibre, j'ai l'impression, là, au XVIIIe siècle. Je ne suis pas un chantre de l'Ancien Régime, pour autant, mais ils essayent d'arriver à une espèce d'équilibre, et sans compter l'équilibre écologique. Ne pas abîmer non plus trop la ressource. Donc, vous voyez, je reste sur cette idée un peu d'équilibre qu'essaie de mettre en place l'État monarchique au XVIIIe siècle sur ce littoral. Excusez-moi d'avoir été trop long.